Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin.
La nuit rêvée de Patrick Coutin. Bonsoir Patrick Coutin.
Bonsoir Alban.
Un peu plus de minuit, bienvenue à vous dans les nuits de France Culture. Après tout, Patrick Coutin, puisque les chansons courent encore dans les rues longtemps après que les poètes ont disparu, puisque la foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, ce n'est pas vous faire injure de dire que votre nom ne dira pas immédiatement quelque chose à tous les auditeurs de notre chaîne. Mais à coup sûr, dès qu'ils entendront les premières mesures de la chanson qui, ne disons pas, a fait votre fortune, mais qui vous a permis de vivre depuis aussi librement que vous l'entendez, chacun ou presque de nos auditeurs donc reconnaîtra aussitôt un titre sur lequel il a dansé, dragué, fait la fête, roulé vers le soleil sur l'autoroute des vacances. Ce tube phénoménal qui vous colle au Santiago depuis quelques années, Patrick Coutin, n'est d'ailleurs pas la raison de votre invitation dans cette nuit rêvée. C'est bien plutôt la manière que vous avez eue de vivre pleinement, au fil de l'eau ou à contre-courant, votre époque qui nous vaut le plaisir de vous accueillir. La manière que vous avez eue de vivre la musique au fil de vos errances, comme vous dites, selon votre propre désir, dont votre dernière production, un triptyque vinyle chic et totalement original, est le parfait témoignage, nous y reviendrons. La manière aussi que vous avez eue de voyager, de parcourir le monde, vers tout ce qu'on désigne depuis les années 60 comme contre-culture, devenue culture tout court à présent, et d'y faire quelques rencontres avec des personnalités remarquables. Dans votre histoire, singulière comme toutes les histoires, que vous nous raconterez et que nous raconterons les archives de votre programme, beaucoup reconnaîtront la leur, ici et là. D'autres découvriront comment avoir eu 20 ans au début des années 70, quelque part en banlieue parisienne, n'empêchait pas une existence d'être marquée du sceau indélébile de la liberté, pour peu qu'on ait l'esprit curieux et aventureux.
J'aime en regarder les filles qui marchent sur la plage, sur leur peau le soleil caresse bien trop sage, le vent qui les décoiffe, un goût de sel sur mes lèvres. J'aime en regarder les filles qui marchent sur la plage, les
Patrick Coutin, vous êtes l'auteur de ce tube. Alors, qu'est-ce qu'un tube? Ou plutôt, qu'est-ce qu'un tube qui traverse les années, qui est dans l'oreille de plusieurs générations?
Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est très fort, puisque ça vous accompagne, ça vous catégorise, ça vous donne aussi une certaine forme de liberté. Parce que quand vous êtes artiste, chanteur, un tube, c'est presque le passage obligatoire. Donc une fois que vous en avez eu un, c'est un peu comme le premier enfant, vous avez balisé le chemin. Avant toute chose, c'est une chanson qui vous appartient plus et qui appartient aux gens qui l'aiment et qui s'amusent avec, qui vivent avec.
Ce titre s'est, je crois, vendu en de très très nombreux exemplaires.
Oui, et pendant très longtemps. Il s'est d'abord vendu très fort dans les années 80, 81 précisément, avec l'arrivée de la radio FM. Ça a été le premier tube de radio FM, je crois. Et puis, il y a eu des ressorties assez souvent. Et surtout, c'est un titre qui redémarre tous les étés, quoi. C'est-à-dire que là, on va se mettre à le réentendre parce que, évidemment, la plage...
Pour Frédéric Becbédé, c'est l'hymne des plages.
C'est une sorte d'hymne des plages. En tout cas, c'est l'hymne de la nuit des plages.
Ce titre, donc, est lié au studio d'Hérouville, où il a été enregistré. La première archive que nous entendrons retracera l'histoire du château d'Hérouville. Rappelez-nous ce qu'ont été ces studios mythiques, comme on dit.
Alors, Hérouville, c'est le premier studio français qui a réellement été mythique. Avant, il y avait des studios en France, bien évidemment. Mais ça a d'abord été le premier studio, est aussi un studio de résidence. Et c'était le premier studio français dans lequel les étrangers se sont précipités à un moment donné parce qu'il représentait à la fois un très haut niveau technique et en même temps, je crois, tout ce que la France peut apporter au monde, c'est-à-dire un château, la Dolce Vita...
Des conditions d'hébergement assez incroyables.
Oui, dans un château qui était particulier, hein. c'était pas Versailles, mais c'était un château, c'était un peu habité, on va en parler, il y avait une espèce de puissance dans le lieu. Dans un village, pas très loin de Paris, qui plus est, à côté de là où Van Gogh a peint tout ce que l'on peut imaginer, notamment l'église d'Auvers-sur-Oise. Donc un endroit qui avait eu une grande force et qui a marqué l'histoire de la musique en France. Mais avant toute chose, je crois qu'il faut rendre justice à ce qu'a été Hérouville et au projet de Magne. C'était un très haut lieu de technicité. Voilà. C'était un très bon studio.
C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais d'un tube qui dure et qui traverse les années. Et si ça tient la distance, c'est aussi parce qu'il y a un son, une production de très grande qualité.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, bon, ce qu'on vient d'entendre, « J'aimerais les filles », ça a été fait là-bas et ça a été fait assez simplement, quoi. Ça sonnait, comme on dit.
Et d'ailleurs, cette chanson « J'aime regarder les filles », quelle est son histoire, Patrick Coutin ?
Alors, je vais essayer de faire court parce qu'elle est longue, l'histoire. Je rencontre Laurent Thibault, qui était... le patron du studio à l'époque, en allant interviewer, j'étais journaliste, en allant interviewer Magma. Et puis, on devient pas amis, mais un peu relation. Et un jour, il me dit, mais je suis sûr que vous êtes musicien. Je fais, bah oui, je suis musicien. Tous les journalistes étaient musiciens. Il me dit, j'aimerais bien écouter. Je lui fais écouter. Il me dit, ouais, bon, c'est pas mal, mais c'est pas bien enregistré. Un jour, vous viendrez au château, on passera une journée à faire des maquettes. Et trois mois plus tard, il me rappelle, il me dit, écoutez, j'ai une journée de libre, ce qui était très rare quand même, c'est un studio qui était très occupé, j'ai une journée de libre, là, dans deux jours, ça vous dit de venir. Donc évidemment, cours, moi, mon groupe, basse, batterie, guitare, les amplis dans la Fiat 600, la batterie, tout, ça débordait. Et on arrive au château et on passe cette première journée, et Higelin arrivait le lendemain matin. Donc on savait que c'était une journée, et... En fin de journée, Laurent Thibault nous dit, vous savez, Higelin est un peu en retard, il ne sera pas là demain. Et ça a duré un mois. Voilà. Tous les jours, Higelin devait venir. Et en fait, il restait en Espagne. Je pense qu'il avait trouvé quelque chose de très intéressant du côté d'Alicante ou quelque chose comme ça. Et donc, ça a duré. Au bout d'un mois, c'était long quand même. Parce que nous, le studio, c'est difficile. Hein. C'est un endroit de professionnel dans lequel il faut être très performant. Et surtout, tous mes copains étaient en vacances et m'appelaient du sud de la France en me disant « Tu sais, on t'attend, qu'est-ce que vous foutez ?» Il y a la blonde de l'année dernière, elle demande de tes nouvelles. Et je crois que « J'aime regarder les filles » est sorti un peu comme ça. C'est une chanson de frustration. Ce que Becbédé a très bien dit d'ailleurs dans un de ses romans, c'est la chanson de quelqu'un qui aimerait bien être sur la plage, mais qui quand même peut pas partir parce qu'être à Hérouville, c'est magnifique aussi, quoi.
Et donc, ce premier album, dans lequel on peut trouver ce titre, n'est pas sorti immédiatement après l'enregistrement.
Non. Alors, c'est Laurent Thibault, donc, le château qu'il avait produit, hein, puisque nous, on était rien, on était des clodos du rock, comme tout groupe débutant. Et puis, il n'a pas réussi à le vendre tout de suite. On devait être en 80, quelque chose comme ça. Les maisons de disques n'étaient pas intéressées. Et quelques temps plus tard, alors que je jouais au Gibus avec mon groupe qui s'appelait Reporter, un garçon qui s'appelait Le Sueur, nous a dit, moi je vais produire un disque avec vous. Je dis, mon pauvre ami, on vient d'en faire un, on peut pas faire mieux, on a eu meilleur studio du monde, un des plus grands ingénieurs français, Thibault produisait Higelin, etc., etc. Tu vas pas réussir à faire mieux. Alors il nous a dit, donnez-moi la bande, et il a refait le tour des maisons de disques, et là plusieurs maisons de disques ont été intéressées, notamment celle qui nous a signé. C'est sorti avec pas mal de retard, il y a plein d'anecdotes, on en a trouvé dans les bacs de soldes avant qu'il soit sorti, etc., etc. Et puis finalement, les radios étaient pas très chaudes parce qu'il y avait des paroles qui étaient considérées comme un peu choquantes à l'époque. Pas pour nous, parce qu'en anglais il y avait pire, mais en France, bon. Et puis finalement, il y a eu l'élection de Mitterrand en mai, si je me souviens bien. L'arrivée assez rapide de toute cette vague de radio FM qu'on appelait radio libre à l'époque. Et qui s'en sont emparés et qui ont fait le tube de l'été, quoi. Enfin, un des tubes de l'été.
Et un tube d'une telle ampleur, ça ouvre des horizons, des possibles ?
Alors sans doute, moi sur le coup, ça m'a pas très enthousiasmé cette affaire, parce que c'était pas vraiment mon truc. Moi j'étais étudiant, j'étais politisé, comme on dit à l'époque. J'étais quelqu'un qui était, on dirait, révolutionnaire aujourd'hui, peut-être. Et subitement, se retrouver à faire des émissions de télévision dans les 20h30, c'était pas quelque chose que j'arrivais à vivre facilement. J'ai jamais aimé d'ailleurs ce qu'on appelle le succès, c'est-à-dire ce qui fait que subitement tout le monde vous trouve beau, intelligent, plein d'humour, etc. Et j'avais quand même un petit doute sur cette subite...
Vous n'étiez pas dupe.
C'est difficile d'être dupe quand vous êtes un banlieusard et que vous essayez d'aller dans un club à Paris, que vous faites virer depuis des années systématiquement, même quand vous êtes habillé avec une cravate, hein, il n'y avait rien à faire, et que subitement vous êtes invité dans le même club et qu'on vous offre le champagne, vous dites que c'est peut-être pas pour vous, quoi. Bon, c'était pas pour moi, c'est pour ce que le succès représente.
Et avant cela, vous n'aviez pas l'ambition de devenir chanteur ou de faire carrière dans la musique, Patrick Coutin ?
C'était pas vraiment ça mon truc au départ, je voulais écrire des textes. Je revenais de Californie où j'avais passé presque 2 ans. J'avais rencontré plein de musiciens. J'étais devenu journaliste à Rock et Folk. Donc, je vivais dans ce monde-là. Donc, c'était un peu évident d'écrire ou de participer. Puis, le groupe pour lequel je faisais des textes, un jour, le chanteur est parti. Donc, il m'a demandé de chanter. Puis, un jour, le guitariste est parti. Donc, il m'a demandé de jouer de la guitare. Et on pensait pas devenir ce que j'étais, c'est-à-dire un artiste de variété. Globalement, parce que quand vous avez un tube en France, vous êtes un artiste de variété. Bon. Ce qui n'est pas péjoratif, mais c'était pas quelque chose auquel j'étais préparé. J'étais préparé à un monde peut-être un peu plus intello, on va dire.
Et donc, avant le tube, qu'est-ce qui pousse un jeune banlieusard à larguer les amarres, à lâcher ses études pour mettre le cap vers l'Ouest, vers l'Amérique ? Qu'est-ce qui vous a poussé ? Le rock'n'roll ?
Alors le rock'n'roll, c'est venu en second. Dans un premier temps, on a vécu ce que j'appellerais la période mai 68, qui était une période mondiale. Il y a eu mai 68 en France, il y a eu des choses ailleurs. Qui est un peu le moment où la jeunesse et aussi beaucoup d'intellectuels, beaucoup de gens qui réfléchissaient, d'artistes, ont commencé à dire le vieux système nous fatigue, quoi. On peut plus vivre dans un monde avec une morale aussi désuète, avec des jeux de rôle politiques, etc., aussi obsolètes. Et ça, très vite, finalement, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas faire ce changement. On a changé un peu les choses, indiscutablement. Mais à un moment, on s'est bien rendu compte que c'était limité. Et que ça n'allait pas aller plus loin. Donc subitement, le rock'n'roll, notamment anglo-saxon, est arrivé dans le paysage comme étant une autre forme d'expression, en tout cas une forme d'expression dans laquelle on pouvait mettre la musique, le cinéma, la littérature, et aussi le combat politique. C'est-à-dire une autre façon de le dire, puisqu'on n'était pas invité à réellement le dire, que ce soit à la radio ou à la télévision. Donc on est rentré là-dedans, puis après on s'est dit tiens on va aller voir ce qui se passe en Angleterre, puis après on s'est dit tiens on va aller voir ce qui se passe en Amérique, et puis petit à petit on a découvert toute cette contre-culture qui était très forte dans le monde anglo-saxon. On peut parler des Kerouac, on peut parler de la Beat Generation, on peut parler des hippies aussi, on peut parler de cette musique, et évidemment c'était une forme d'ivresse parce qu'elle était associée à plein de plaisirs qu'on n'avait jamais trop connus. Et qui nous ont bien amusés, il faut le dire.
Et qu'est-ce que vous avez trouvé sur cette West Coast ?
Alors, d'abord, c'est la Californie, il fait beau toute l'année, ou pratiquement. C'était un pays qui était très riche par rapport à la France, donc on y vivait simplement. Il y avait beaucoup de musique, tout le monde était musicien. En tout cas, beaucoup de... Ça jouait tous les jours, de partout. C'était un pays qui était en avance sur nous parce que c'est pas un pays qui avait une très grosse conscience politique, mais qui avait déjà une grosse conscience écologique. On avait déjà des gens qui produisaient leur propre électricité, leur eau chaude, etc., qui mangeaient bio, qui mangeaient du riz complet, des choses qu'on ignorait totalement à Paris. Donc, ce que m'a apporté la Californie, c'est cette espèce de conscience de ce que c'était le monde, que nous n'avions pas, nous. On voulait changer la société, on voulait que les pauvres soient moins pauvres, que les riches soient moins riches. Vous voyez ce que je veux dire? On était très franco-français. On est toujours un peu comme ça, d'ailleurs, dans notre façon de penser. Et on n'avait pas cette conscience d'une humanité qui avait, quand même, qui était déjà en train d'entamer un peu son crédit. En tout cas, ce que la Terre lui donnait comme crédit. Donc ça nous a changé. Ça nous a changé la tête. Ça nous a aussi appris, des choses qu'on s'attendait pas à ça. Par exemple, ce que c'est que l'amour. Très étrange. Nous, on avait une conception très fine de l'amour. On tombait amoureux d'une jeune fille et puis bon, on essayait de l'embrasser dans le cou. Les Californiens avaient déjà une conception de l'amour qui était beaucoup plus ouverte, beaucoup plus universaliste, beaucoup plus dérangeante dans un premier temps, qui remettait en cause le machisme, par exemple. Qui était un peu notre... On était des garçons, c'est le cas de le dire. Donc tout ça, c'était un profond bouleversement pour nos personnalités.
Dans votre nuit rêvée, vous avez voulu entendre Jimi Hendrix et Bob Dylan. Pourquoi ces deux-là, en commençant peut-être par Dylan?
En Dylan, c'est gigantesque, Dylan. C'est un poète d'un très très haut niveau. Moi, quand j'étais à l'école, j'étais... très inspiré par Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, tous ces poètes français. Et Dylan est de ce niveau-là. C'est un immense poète. En plus de ça, c'est un chanteur. Contrairement à ce que plein de gens disent, c'est un chanteur miraculeux qui fait à peu près ce qu'il veut de savoir. Capable de chanter n'importe comment aussi, mais c'est aussi sa dimension poétique. Un compositeur de tubes, alors là, on peut en parler, enfin bon... Et je crois que c'est quelqu'un qui a profondément marqué tout le mouvement rock. D'ailleurs, avec des atermoiements, des allers-retours, il était très critiqué, Dylan, beaucoup moins probablement radical qu'on aurait aimé qu'il soit. Ça, c'est... Bon, donc Dylan, c'est incontournable. Pour moi, c'est... aujourd'hui encore, quand vous écoutez la radio, il y a des bouts de Dylan qui se trimballent dans tous les tubes que vous entendez, y compris dans la nouvelle génération, des bouts de phrases, Forever Young par-ci, des machins comme ça par-là. Et puis, pour Hendrix, ça a été d'abord le retour de la culture africaine-américaine dans le rock'n'roll, qui était pas très, qui était très blanc, hein, c'était très, très un truc de pays occidentaux. Même si ça venait du blues, mais on ne le savait pas encore. Donc Hendrix, c'est le retour du blues, de ses racines afro-américaines, et c'est aussi quelqu'un qui reste inégalé, je sais pas, on est 40 ans plus tard, j'ai pas vu le temps passer, mais dans sa créativité, dans son jeu, dans son chant, dans sa personnalité, ce sont des gens qui nous ont fortement marqués, par leur liberté aussi.
Hendrix, grand admirateur de Dylan, d'ailleurs.
Hendrix, qui a repris du Dylan, je veux dire, bon, plusieurs chansons de Dylan, grand admirateur de Dylan. Mais aussi Hendrix, qui a été un des premiers musiciens à s'occuper de production, à jouer avec les sons, à monter son propre studio, Electric Ladyland à New York, et qui en même temps était un guitariste. Alors là, je dirais, ce que Dylan est à la poésie, Hendrix est à la guitare. Aujourd'hui encore, on peut rejouer ce que joue Hendrix, des très bons guitaristes le font, mais je n'en connais pas un qui ait la créativité d'Hendrix.
Votre première guitare, Patrick Coutin?
C'est une guitare espagnole que j'avais achetée pour essayer d'impressionner ma voisine, qui était une jeune femme d'origine antillaise et qui m'invitait dans des booms dans lesquels il y avait des musiciens de funk américains qui m'ont beaucoup marqué, hein. Doc of the Bay, Wilson Pickett, etc. Bon, tous ces gens-là m'ont... C'était pas ma musique. Pourquoi? Parce que ça se dansait. Et moi, un peu comme tous les jeunes français de l'époque, j'avais, disons, le cul un peu en plomb, quoi. On avait beaucoup de mal à se laisser aller à danser. Par contre, les Français d'origine africaine ou des îles, c'était des gens qui aimaient la fête, qui aimaient danser, qui savaient danser, qui étaient chics, qui étaient beaux. Et donc, je m'étais dit que j'avais aucune chance à la danse, mais que peut-être, en jouant un peu de guitare, elle s'intéresserait à moi. C'est un échec total.
Vous dites que votre première guitare a été un instrument d'émancipation.
Oui. Oui, d'abord parce que c'était un domaine dans lequel mes amis, au départ, n'étaient pas admis. C'était rare des jeunes Français qui jouaient de la guitare. Mon père comprenait parce que mon père était musicien. Et puis, donc, c'était le premier instrument qui m'a permis de sortir un peu de la fac, hein, de mes admirations littéraires ou philosophiques. C'est aussi le premier instrument avec qui j'ai gagné 3 sous. J'ai fait une fugue assez rapidement. Je me suis retrouvé dans le sud de la France avec ma guitare à faire la manche devant un café. J'ai peut-être pas gagné grand-chose, mais bon, il y a 2-3 personnes qui ont jeté 1 franc. Et ça a été toute ma vie. Je pense que j'ai voyagé le reste de ma vie avec une guitare.
Et cette guitare vous a ouvert des portes aux États-Unis, par exemple?
Oui, je l'ai. Juste avant de partir aux USA, il nous arrivait plein de choses. On a fait beaucoup de bêtises. On voulait enregistrer absolument. Il n'y avait pas de magnétophone, donc on a essayé d'en voler un, pour tout vous dire. On a fait un petit casse, mais comme on était des idiots, on a cassé une vitrine. On a fait ça au moment où le cinéma sortait, donc on s'est fait arrêter. Et donc là, je me suis dit, faut partir, faut quitter la France parce que tu commences à faire trop de bêtises. Et là, il y a un ami qui m'a vendu pour 3 fois rien une Stratocaster, qui était la même que celle de Jimi Hendrix, que j'ai toujours, qui est ma guitare, avec lequel j'ai été en Amérique, avec lequel j'ai fait pratiquement pas le tour du monde, parce que j'ai pas fait tout à fait le tour du monde, mais qui est tout le temps avec moi. Dès que je pars en vacances, elle est avec moi, quoi.
Vous partez avec une guitare ou plusieurs guitares?
Ça m'arrive de partir avec 4 ou 5, mais bon, là, c'est quand j'ai du travail, sans quoi je pars avec une, ça suffit.
Donc vous avez la passion pour cet instrument, mais vous êtes, je crois, aussi un grand consommateur d'informatique, et vivre avec les nouvelles technologies ne vous pose pas de problème, Patrick Coutin?
Bah non, d'ailleurs, si ça me pose un problème, je serais très embêté, parce que si vous vivez sans les nouvelles technologies, je ne vois pas comment vous arrivez à vivre aujourd'hui. Autant je suis amoureux du son qu'on avait, par exemple, à Hérouville, de tout ce monde analogique que l'on a connu avec ces grands techniciens qui ont fait le son, notamment des émissions qu'on va écouter, hein. Ça sonne incroyablement, le son des voix, tout ça, c'est très très beau. Donc, je suis un amoureux de ça, bien évidemment. Autant les moyens techniques d'aujourd'hui sont aussi extraordinaires, hein. Je veux dire, donc, oui, c'est agréable de s'en servir, ça va vite. Ça permet de renouveler l'approche. L'idéal, c'est de pouvoir marier les deux.
Qui d'autre aurait pu figurer dans cette nuit parmi les grands noms des années 60-70? Neil Young, peut-être?
Neil Young, sans doute. Indiscutablement, Neil Young, qui est aussi un immense musicien, un immense poète. Mais il y en a d'autres. Les Doors, c'est un groupe avec Morrison, qui est un poète aussi. Il y a eu énormément de... Les années 70 ont été musicalement... très créative, en tout cas en ce qui concerne le rock. En littérature aussi, puisque je pense qu'on va aborder quelquefois ces questions. En dessin, en cinéma, il y a toujours des films que je revois. Par exemple, quand je revois Zabriskie Point, qui est un film qui était considéré comme un peu n'importe quoi à l'époque, je trouve que la poésie qui se dégage de ce film est extraordinaire.
Et en même temps, vous n'avez pas mis de cinéma dans votre nuit rêvée, Patrick Coutin. Est-ce que pour les gens de votre génération, la musique ne serait pas plus importante que le
cinéma ? Pas sûr. Alors moi, j'ai un problème avec le cinéma, c'est que je voulais faire du cinéma. Et j'ai raté mon examen d'entrée à l'école de cinéma, je ne sais plus comment ça s'appelait, de une place. Je suis arrivé un derrière, on m'a dit, oh, il faut recommencer l'année prochaine, vous l'aurez, puis bon, je suis parti ailleurs. Mais non, moi j'étais extraordinairement intéressé notamment par Godard, qui pour moi reste un génie. Bon, c'est vrai que le cinéma, ça fait partie des choses, il faut quand même le regarder. Si...
Oui, plutôt que l'écouter.
Oui, mais on peut écouter du cinéma, je veux dire, notamment le mépris de Godard, les dialogues sont extraordinaires, on pourrait les passer en radio.
Comment, après les États-Unis, vous êtes-vous retrouvé journaliste à Rock and Folk?
Je me suis retrouvé fauché, surtout, je suis arrivé à Paris, je pense qu'on était en hiver, il faisait un froid de gueux à l'aéroport de je sais pas trop où, dans le nord de Paris. Bref, j'avais pas envie, je voulais pas reprendre mes études, parce que c'était derrière moi. Il aurait fallu recommencer la philo en 5e année, se réattaquer. Bon, c'était au-dessus de mes forces. Et un jour, en allant acheter des cordes à Pigalle, je suis passé devant une plaque et il y avait marqué « Rock et Folk ». Alors, je me dis « Tiens, ça c'est pour moi, je connais un peu la musique, je sais un peu écrire ». Donc je suis monté, je leur dis « Voilà, bonjour, j'arrive d'Amérique, j'étais journaliste là-bas, est-ce que vous ne cherchez pas un journaliste ?» Ils m'ont dit « Bah, écrivez-nous un papier, puis on va voir ». Donc j'ai fait une de ces escroqueries dont j'ai le talent. Je suis parti dans le New Musical Express, j'ai pris un article qui parlait du matériel de Peter Gabriel et de son groupe de l'époque, que j'ai plus ou moins recopié, traduit, je leur ai apporté, et puis 15 jours après, il était publié dans Rock & Folk. Voilà, je suis devenu journaliste comme ça.
Et qu'est-ce que ça a été pour vous, Rock & Folk, l'occasion de rencontrer vos idoles ?
Alors, à l'époque, on n'avait pas d'idoles. Il y avait des gens qu'on admirait, des gens qui nous montraient un peu le chemin, mais on n'était pas du tout dans l'idolâtrie. Par contre, c'était des gens qui était important pour nous. C'était des gens qui traçaient un chemin. En général, les artistes de cette époque inventaient tout ce qu'ils faisaient. Donc Rock & Folk, c'était l'occasion de repartir aux USA, de voyager, de passer des heures à interviewer des musiciens, que ce soit les Rolling Stones, que ce soit Santana, que ce soit les Eagles. Tout ça en s'amusant, en gagnant pas énormément d'argent, parce que c'était pas un très gros travail, mais c'était un travail dans lequel on partait 15 jours aux USA, on faisait 4 ou 5 villes, on rigolait bien, on s'amusait, bon. C'était aussi quelque chose qui m'a branché beaucoup sur la technique, parce qu'à Rock & Folk, j'ai eu très vite une rubrique qui s'appelait, un truc qui parlait de technique en tout cas, et mécanique rock, et dans lequel j'allais regarder comment fonctionnait telle guitare, tel ampli, etc. Donc ça m'a permis de me brancher encore plus là-dessus.
Et quelles ont été vos rencontres marquantes de journalistes ?
Oh, il y en a eu beaucoup. Il y a eu des gens, Marley par exemple, c'était quelqu'un de fascinant. J'étais en Jamaïque où j'avais raté Marley, je m'étais endormi à la place avant d'aller au concert. Donc le lendemain, je me suis quand même senti, quand vous allez en Jamaïque, c'est un long voyage, pour voir Marley en concert au Reggaeton Splash, je me suis quand même dit qu'il fallait faire quelque chose. Et on était dans un hôtel à Kingston, et j'ai demandé le chemin de sa maison. On m'a dit, mais il ne faut pas y aller, vous savez, c'est au milieu du ghetto. Je dis, oh, bah, c'est quand même pas grave, je vais quand même y aller. Et donc j'ai traversé tout ce qu'on appelait le ghetto à l'époque, pour arriver à cette maison qui était un peu de l'autre côté, où Marley avait son studio, il enregistrait, il m'est arrivé plein d'aventures sur le chemin. Comme j'avais rien sur moi, j'étais parti sans montre. Et là, j'ai passé l'après-midi dans la maison de Marley, où entre une partie de foot et un peu de studio, j'ai pu l'interviewer, j'ai pu parler avec Rita Marley, qui était sa femme, etc. C'était très impressionnant, très très impressionnant, parce que c'était un monsieur qui ne vivait pas tout à fait sur la même planète que nous. Santana était quelqu'un de très impressionnant. Zappa était quelqu'un d'extraordinaire, d'une intelligence faramineuse, quoi, qu'elle est très vite. Beaucoup de personnes m'ont impressionné à l'époque.
Chrysler! Chrysler Rose. Elle repose sur ses jantes, abandonnées. Deux de ses roues sont voilées. Sa capote est déchirée. On voit le ciel à travers quand elle est usée. Chrysler. Le Chrysler Rose. Chrysler que j'ai au fond de la cour. Chrysler rouillé. J'ai une Chrysler tout au fond de la cour. Elle ne peut plus rouler, mais c'est là que je fais l'amour. Il pousse de la mousse et des glissimaux sur le volant. D'un doigt dans la ville, dans la poussière, sur la portière. Les enfants décrivent que d'Achille est un con. Oui, une Chrysler. Une Chrysler rose. Elle ne peut plus rouler. Mais quand les ressorts grincent. Quand les ressorts grincent.
Les enfants de l'immeuble aussitôt cessent de jouer pour venir regarder. Chrysler! Chrysler! Une Chrysler rose!
Venons d'entendre Dashiell et Dayat, c'est-à-dire Daniel Théron, alias Jacques-Alain Léger, ou encore Mel Motte, F. Saint-Roch ou Paul Smail, suivant les époques et les activités. Là, c'était Chrysler, scandé par Dashiell et Dayat, avec le groupe Gong, le titre phare d'un album devenu mythique, obsolète. Quand avez-vous rencontré Dashiell et Dayat, ou disons Jacques-Alain Léger, son nom de plume le plus connu?
Patrick, oui, Daniel, Coutin. Moi je l'appelais Daniel. Je l'ai rencontré, on va dire, probablement un an et demi, deux ans avant qu'il enregistre cet album. Comment, je n'en sais plus rien, on traînait autour de la coupole. Souvent, bon, on est devenus amis. Il était, alors quand je veux dire plus âgé, ça veut rien dire, parce qu'il avait, je sais pas, peut-être quelques années de plus que moi, mais à l'époque, vous savez, quand vous êtes jeune, j'étais un petit peu en formation avec lui. On a beaucoup traîné ensemble. Il m'a fait découvrir beaucoup de choses que je ne connaissais pas. J'étais un petit banlieusard, donc tout ce qui était Paris, le Rosebud, la Coupole, toute cette culture qui était autre chose que ma culture un peu, je dirais, universitaire à moi. Moi, ma culture universitaire, c'est la littérature française, ça va jusqu'à Sartre, certes, mais où c'est la poésie française. Lui, il était déjà dans des auteurs comme William Burroughs, dans Kerouac, il était dans des auteurs comme Deschilamette aussi, la culture américaine du polar, mais aussi Hedayat, qui était par contre lui un poète iranien, je crois, en tout cas d'origine orientale. Et il était extrêmement branché sur la culture new-yorkaise anglo-saxonne. Donc ça a été pour moi une façon de m'échapper un peu d'ailleurs de ce monde très franco-français dans lequel j'étais. Et puis de rencontrer un monde plus parisien, plus léger sans doute, mais aussi qui permettait de faire des recherches que je ne me serais pas permis de faire. Puis un jour, il m'a dit « Ah, bah, écoute, je fais un disque, viens me voir à Hérouville. » Et c'est la première fois où j'ai mis les pieds à Hérouville. Il y avait le gong qui enregistrait. Bon, t'es là-bas, ce qui n'était pas si facile que ça, pour y aller d'ailleurs à l'époque. Et voilà.
Vous citiez Burroughs et Kerouac. Nous les retrouvons au programme de votre nuit. La Beat Generation, c'est encore la musique, le jazz, le rock'n'roll, Patrick Coutin?
Oui, la Beat Generation, c'est la poésie, déjà. C'est le voyage, en tout cas la dérive. Alors, bizarrement, ça résonnait bien avec ce que nous proposaient les situationnistes en France, où on avait toute une pensée qui venait de la pensée marxiste, mais qui en même temps prônait une certaine forme de laisser-aller, de dérive, une autre conception des relations humaines, etc. Et j'ai trouvé dans Kerouac et dans Moriarty, qui est son héros, en tout cas sur la route, j'ai trouvé cette même envie de transcender un peu une vie où tout était organisé, y compris la pensée la plus révolutionnaire était organisée dans une certaine mesure. Et donc oui, c'est ça. Alors, c'est le jazz. Moi, j'avais été initié au jazz par un ami malien qui m'avait initié à Coltrane, etc., etc. Donc j'avais le jazz déjà dans ma culture. J'avais passé des heures et des heures à écouter Coltrane et Miles Davis. Et ça m'a rempli un trou de culture de rencontrer Daniel et de le suivre au début quand il traduisait Dylan ou quand il commençait à écrire lui-même ses propres livres.
Et dans vos périples américains, est-ce que vous avez retrouvé sur la route l'esprit de Kerouac?
Oui, oui, oui. L'Amérique, c'est un pays qui est profondément un pays de dérive et de route. Bon, vous êtes d'abord, dès que vous sortez d'une ville, vous êtes sur une route qui n'en finit pas. Les Américains vivent sur la route. Moi, j'adore vivre sur la route. Hein. Je pourrais vivre sur la route, je crois encore. Chaque fois que vous faites 1000 kilomètres, vous changez de pays, en quelque sorte. L'Amérique est un endroit extrêmement divers. Tout le monde voit l'Amérique, c'est une auberge espagnole. Ici, vous êtes dans un coin de France, là d'Espagne, là du Mexique. Et surtout, c'est un pays qui a une grande tolérance et même une forme d'affection pour ce qu'on peut appeler les clochards célestes, c'est-à-dire les gens qui voyagent pour des raisons qui peuvent être X. Ça peut être parce qu'ils aiment voyager, ça peut être parce qu'ils fuient, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trimballent un peu bizarres aussi sur les routes. Mais c'est un pays qui vous permet de vous recréer pratiquement tous les 1000 kilomètres. J'arrivais dans une nouvelle ville, les gens sont accueillants, les Américains sont assez faciles de contact, et vous recommencez une nouvelle vie. Même si 15 jours plus tard, vous retrouvez l'ancienne, mais il y a ce côté intéressant dans les USA.
Vous aviez, jusqu'à présent, fait le choix de chanter, d'écrire vos textes en français. La musique rock peut-elle vraiment se passer de l'anglais? Et est-ce que ce n'a pas toujours été là la difficulté principale de cette musique en France, Patrick Coutin?
Bon, il y a du rock français, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais sans vouloir revenir à ça, c'est vrai que je crois que la France est un pays, et le mot lui va bien, c'est un pays de variété, la France. Pourquoi? Parce qu'on a une culture très variée, on a plein de racines qui vont des racines latines aux racines africaines, aux racines celtes, par exemple. Et ça va bien à la France et ça va bien à son langage. Parce que c'est vrai que le français n'est pas très facile à chanter sur du rock. Et puis, je crois que notre culture musicale est aussi une culture de variété. Indiscutablement, c'est plus facile de composer et de chanter du rock en anglais.
Aux côtés des grands noms du rock, du blues, quelle place ont occupé pour vous les grands auteurs de la chanson française? Je pense précisément à Brel et Ferré.
Alors pour moi, c'était des gens importants. J'ai beaucoup écouté Brel, j'ai beaucoup écouté Brassens, j'ai beaucoup écouté Ferré. J'étais très, 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 très fan de Brel, qui était un performeur de rock. Brel, sur scène, c'était du rock'n'roll. C'était une espèce de folie furieuse qui traversait la scène quand il faisait une chanson qui s'appelle Le Cheval. Je vous invite à la regarder pour ceux qui l'ont. C'est incroyable. On se demande comment il arrive à chanter en même temps. Donc... Et c'est des gens qui sont rattachés avec ce que j'appelle la poésie française, indiscutablement. Ils l'étaient plus à l'époque que nos yéyés ne l'étaient. Moi, j'aimais bien des gens comme Nino Ferrer ou Dutronc ou des choses comme ça, mais c'est vrai que les Brel, Brassens, Ferré, c'était des grands auteurs, on pourrait dire, quoi. Bon. Dans mon panthéon, Brel est à côté de Dylan. D'ailleurs, pour Bowie, je pense que Brel est à côté de Dylan.
Et ceux de Sarava autour de Pierre Barou, c'est-à-dire Areski, Fontaine, Higelin.
Alors moi j'ai une relation spéciale avec Higelin. J'ai retrouvé l'autre jour des très longs articles que j'ai écrits sur Jacques dans un canard qui s'appelait Rock en stock, où je signais sous le nom de Charles Hamler, je me demande si j'avais trouvé ce pseudonyme ridicule, et où j'avais suivi Higelin plein de fois dans plein de concerts en Bretagne, etc. Donc j'étais un grand fan de Jacques Higelin, qui était dans l'état d'esprit un chanteur de rock, mais comme toujours, comme tout chanteur français, c'était aussi quelqu'un qui était plus proche de Trainé ou de Brel que de la culture anglo-saxonne, même s'il a fait des disques comme BBH qui sont quand même des disques que l'on peut tenter de dire des disques de rock. Mais très rapidement, on arrive quand même dans cette expression française qui favorise la chanson.
Beat Generation, rock and roll, c'est-à-dire alcool, drogue dure, suicide et mort avant l'heure, on a le sentiment que l'autodestruction devait nécessairement faire partie du jeu.
Vous me cherchez, là. Qu'est-ce que vous faites à votre âge, encore vivant? Je crois que, d'abord, quand on a 20 ans ou 25 ans, mourir n'est pas un vrai problème. On se pose pas la question en ce terme. Et je crois que c'est assez beau que quelqu'un de jeune soit prêt à mourir pour ses idées ou pour vivre ou simplement parce qu'il a pas fait attention et qu'il a fait une connerie et que pas de chance. Bon. Donc on était comme ça. Bon. Moi, je dirais que j'étais un peu protégé par ma mère, qui était une mère très, très, très aimante. Et j'ai quand même toute ma vie fait attention, en tout cas tout pendant qu'elle était de ce monde, à ne pas mourir pour pas lui faire de peine. Souvent je me dis, là, il faut peut-être pas faire ça, parce que là, ta pauvre mère, si tu meurs, elle va pas être contente. Mais c'est vrai que tous mes amis, tout mon premier groupe n'est plus sur Terre, beaucoup de mes amis sont morts, beaucoup de mes héros sont morts, que ce soit Hendrix, et même plus tard des gens comme Nirvana, le chanteur de Nirvana. Le rock Et de toutes les façons, je crois, la musique de personnes qui ont un problème avec la société. Le rock est une musique, je dirais qu'elle est nietzschéenne dans le sens où elle veut aller déjà par-delà le bien et le mal. C'est quelque chose qui nous embête, nous autres personnes qui aimons le rock, cette idée qu'il y a un bien d'un côté et un mal de l'autre. On voit bien que la vie est plus ouverte et plus généreuse que ça. Et puis aussi, c'est une musique qui veut se dépasser, qui veut dépasser, en tout cas qui voulait dépasser les formes de culture. Et donc, je dirais, un peu comme dans Zarathoustra, on pourrait dire, il faut tuer l'homme pour arriver au surhomme. Donc, c'était, quand vous faites ça, vous prenez un risque. Quand vous essayez d'étendre le champ de votre conscience, y compris au moyen de drogue, on parlait de LSD à l'époque ou de choses comme ça, mais très vite, on est tombé dans des trucs beaucoup plus dangereux que ça. Vous prenez un risque, c'est indiscutable. Et quand vous avez pris l'habitude d'être en marge, vous prenez aussi le risque de ne pas pouvoir réintégrer la société totalement. Ça fait partie du rock. Voilà.
Patrick Coutin, après avoir regardé les filles marcher sur la plage, vous avez pensé arrêter la musique, et puis vous avez signé d'autres albums, et vous avez aussi beaucoup collaboré avec d'autres, vous avez produit d'autres groupes et d'autres artistes.
Oui, alors, moi j'ai pas aimé le fait d'être une vedette. J'ai trouvé ça idiot, et j'ai compris que ça avait de l'intérêt, que le jour où j'ai voulu refaire des disques, je me suis rendu compte que les gens étaient d'accord pour me payer des disques. Alors je me dis, ah, ça c'est le bon côté des choses. Mais très rapidement, j'ai voulu pouvoir maîtriser ce que je produisais, sans avoir une maison de disques qui me dise, ah mais ça c'est pas assez un tube, ou là vous avez mis un mot qui est pas bien, les radios vont pas le passer, etc. Donc j'ai pris un peu le chemin de la marginalité, sans vraiment m'en rendre compte, mais tout seul. Et petit à petit, par contre, en échange, je suis devenu assez pointu sur tout ce qui s'appelle, qu'on peut appeler l'enregistrement ou la production, etc. Et à certains moments dans ma vie, j'ei rencontré des gens, ça a été notamment Dick Rivers, qui est parti il n'y a pas longtemps, qui m'ont demandé si je voulais travailler avec eux pour produire des albums, puis les vents passent, et puis d'autres artistes, Jean-Pierre Morgan, etc., etc. Et j'ai pris pas mal de plaisir hein, quand même à mettre les autres dans la situation où je n'avais pas envie d'être. C'est fascinant. C'est travailler avec des grands artistes. Il y a toujours quelque chose qui vous... D'abord, vous apprenez beaucoup. Bon, vous apprenez aussi vos limites. Quand vous travaillez avec quelqu'un qui chante comme Dick, par exemple, vocalement, c'était un mec assez monstrueux. Ou avec Delpech, par exemple. Michel chantait comme un rossignol, quoi. Bon. Donc, vous savez que ça, vous ne pourrez pas le faire. Parce que si vous ne l'avez pas au départ, vous ne l'avez pas au départ. Mais c'est aussi des gens qui vous apprennent beaucoup. Voilà. Donc, c'était des grands moments de ma vie que de travailler avec ces gens-là, oui.
Que reste-t-il des années 70, ou plutôt, que vous reste-t-il des années 70?
Alors ça, c'est compliqué parce que... Peut-être que je me trompe sur moi-même, hein, ce qui est quand même la chose la plus courante avec l'être humain, d'avoir une fausse idée de ce que l'on est. Moi, j'ai pas beaucoup de problèmes avec le monde actuel, si ce n'est que je ne suis pas d'accord avec la façon dont il fonctionne, mais ce que l'humain devient et ce qui sera dans 50 ans, on me dit, oh là là, bientôt, on aura une puce ici, etc. Moi, ça me fait pas peur du tout. Je pense que l'histoire de l'humanité, c'est une perpétuelle évolution. Certains diront une fuite en avant. Donc, j'ai pas de problème avec le monde actuel. Même si j'ai des problèmes sur l'organisation politique, sur l'organisation des richesses, sur la façon dont on exploite la planète ou pas, sur la façon dont certaines personnes sont traitées, certaines civilisations sont traitées même, je les avais déjà en 1970. Et en même temps, donc je me sens, moi, finalement assez lambda et actuel, et en même temps, je sais que je suis profondément le fruit de cette période, qui est le mélange donc de cette éducation à la française où l'école était encore extrêmement performante, hein, ça marquait l'école. C'est-à-dire que à 16 ans j'ai lu Sartre et ça m'a.
Nous en parlons tout à l'heure.
Voilà, et quand je pense à Sartre, je me rends compte encore à quel point je suis influencé par ces quelques livres que j'ai lus quand j'avais 16 ans. Et en même temps, j'ai été très influencé par ces années 80, par le mouvement hippie, le peace and love, etc. C'est vrai, ça m'a changé d'ailleurs. J'étais plutôt un garçon agressif et un peu violent. Donc, Que me reste-t-il ? J'ai l'impression qu'il me reste moi, mais aussi j'ai l'impression qu'il m'est resté une incroyable capacité à m'adapter. Je pense que les années 70 et 80 ont fait de moi quelqu'un de... pas un caméléon, parce que caméléon, c'est quelque chose qui passe inaperçu. Je ne sais pas si je passe inaperçu, mais en tout cas, pratiquement où que j'aille, dans n'importe quel endroit, je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant à prendre. Et je crois que c'est ça mon héritage des années 70.
Merci Patrick Coutin. Nous allons écouter les archives de la première partie de Votre nuit rêvée. Dans un instant, Les folles années du château d'Hérouville, un documentaire en deux parties proposé par Philippe Rezès dans une histoire particulière en 2019. Les albums d'Un visionnaire, le troisième temps de la série que Gérard Tourtrol consacrait à Jimi Hendrix dans Le rythme et la raison en 1990. Le rythme et la raison, première partie de la série Les visions de Bob Dylan de Alain Weber en 1989. Le flot spontané de l'écriture, quatrième temps de la série Sur la piste de Kerouac de Gilles Farcé dans Les chemins de la connaissance en 1988 et enfin cinquième et dernier des entretiens avec William Burroughs en 1976. Nous nous retrouverons dans 3 heures pour parler de la suite de votre programme. Jean-Paul Sartre, Sarcelles, Angela Davis, Mohamed Ali et Henri Michaud, lu par Delphine Seyrig. À tout à l'heure Patrick Coutin.
À tout à l'heure Alban.